j'ai trouvé. Merci, j'ai trouvé cette. N'en fais pas trop.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la Plume,
écrivez vos emails.
Oh non.
Rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter présente Pat Metheny. Orchestrion Tour, en concert le 13 février 2010 à l'Olympia. Et en tournée à Coutances, Châlons-en-Champagne, Nantes et Bordeaux. Retrouvez Pat Metheny dans le programme musical de France Inter.
France Inter,
la différence.
Il est 15h04, on retrouve à présent Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
11 milliards pour l'université, l'enseignement supérieur, c'est bien, c'est un progrès, il faut s'en féliciter. Mais dites, avant d'arriver dans les classes supérieures, universités, grandes écoles, etc., ben on passe par la primaire, ensuite on passe par le collège, et en fait c'est toute une pyramide. Comment ça se passe encore en bas, les classes surchargées? Comment se passe le tri pour arriver en haut dans ces classes qui seront ensuite choyées? Autre chose, l'intelligence d'un pays pour l'aider à gagner les combats de la compétitivité, elle repose pas simplement sur l'intelligence de quelques cadres supérieurs, super bien formés, mais elle passe essentiellement par l'intelligence du peuple, de l'intelligence de la base complète qui se mobilise autour de projets et qui réagit de façon éduquée, civilisée, etc. Comment ça va se passer si on ne n'apporte de l'argent que dans le haut de la pyramide en laissant encore toujours la base fragilisée?
Le Café Repère d'Allemand dans le Tarn organise une nouvelle réunion le jeudi 17 à 20h30 au bar tabac chez Marco. Le thème reste l'Amérique du Sud. Nous y débattrons des avancées politiques, économiques, sociales et citoyennes.
Oui, bonjour, c'est Edith qui vous appelle, un petit bled de la Loire. Avec mon mari, on est paysan producteur de lait et le chiffre vient de tomber, moins 50% ont de revenus agricoles pour les producteurs laitiers, moins 54%. Qui accepterait ça en tant que salarié? Qui? Ce qui m'écœure le plus, je crois, c'est l'indifférence totale dans laquelle tout ça se passe, même de votre part, les médias. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Vous nous laissez crever? Même vous, là-bas, si j'y suis, vous êtes même pas penché sur le sujet. Je suis écœuré. Qu'est-ce que vous faites? Vous nous laissez crever, c'est tout. Mais bon sang, mais merde, on est là, quoi. Nous, on veut vivre et... C'est pas, parlez-en au moins. Même dans les infos de France Inter, ils en ont parlé vite fait hier soir, et puis depuis, plus rien, quoi. Voilà, on est juste bon à crever et à fermer notre gueule. Je suis dégoûté.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Le prochain repère de Marseille aura lieu ce mercredi 16 décembre à 19h30 à l'Équitable Café situé au 54 cours Julien dans le 6e arrondissement de Marseille. Bonsoir à tous.
Oui, bonjour, je suis un auditeur fidèle de l'émission. J'entends actuellement l'émission sur la scientologie. Arrêtez d'employer leur terme qui est église de scientologie. La scientologie n'est pas une église. Et chaque fois que l'on dit, même si on a l'esprit critique et l'œil ouvert, église, on entre dans leur jeu. Ça n'est pas une église. Au revoir.
Bonjour à tous les AMG du Nord Meusien. Donc notre nouveau rendez-vous, c'est ce mercredi 16 à partir de 20h environ, toujours à l'Estaminet à Verdun. Le thème de la soirée, pour faire suite un petit peu aux émissions de là-bas sur les vieux du mois dernier, donc c'est la prise en charge du vieillissement de la population. Et on aura donc parmi nous un médecin gériatre qui nous fera un petit peu le point de la prise en charge de nos vieux dans la société d'aujourd'hui. À bientôt, c'était Patrick, des Repères de Verdun. Je voudrais dire que je suis assez choqué du parallèle que M. Mermet a établi entre l'église de Scientologie et le christianisme en évoquant la fête religieuse du 15 août. En tant que croyant, cela me choque beaucoup. Je voudrais rappeler à M. Mermet que le christianisme est une religion, que l'église de Scientologie est une secte, et que faire l'amalgame entre les deux me paraît d'une malhonnêteté intellectuelle absolue.
Eh bien, ceux qui font l'amalgame rentrent donc dans cette catégorie de la malhonnêteté intellectuelle vue par cet auditeur que je remercie pour son message. On continue aujourd'hui avec l'église de Scientologie ou la secte de la Scientologie, comme vous voudrez, autour d'une affaire quand même assez surprenante. C'est celle de ce jugement qui a été rendu ces temps derniers sur l'église de Scientologie, contre l'église de Scientologie, lourdement perdue devant les tribunaux, mais elle n'a pas été dissoute, contrairement à ce que demandait le parquet. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'éclairer aujourd'hui et de comprendre, car il y a là un alinéa qui a été perdu. Et oui, l'alinéa perdu, une enquête de l'inspecteur Ruffin, c'est notre thème du jour. Et puis, utilisez le répondeur de là-bas si j'y suis tant que vous voulez. C'est à vous, cet espace qui commence toujours, chaque jour, notre modeste émission générale. C'est le 01 56 40 37 37. Encore quelques messages.
Le prochain Café Repère de Savigny-sur-Orge se déroulera ce mercredi 16 décembre. Le thème proposé, pour ou contre la loi Hadopi. Avec la loi Hadopi, Salieri coupe Internet à Mozart. C'est pour ça que Norbert Aboudaram, chargé de cours à l'université de Versailles 50 ans, mais aussi compositeur, auteur dramatique, viendra nous exposer son opposition farouche à la loi Hadopi. Rendez-vous à 20h30 ce mercredi au restaurant Le Jasmin. Entrée libre, bien entendu, et on peut boire et manger. À mercredi.
Bonjour les AMG. Plus on nous demande d'être français, plus nos sociétés deviennent anonymes. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Bonjour à toutes et à tous. Ce petit message pour vous donner des nouvelles du repère de Montpellier qui reprend des forces. Notre prochain rendez-vous sera ce mercredi 16 décembre à 20h au bar du Dôme. Le sujet sera de la simple revendication à la critique globale du système. Comment, dans nos luttes et nos actions, ne pas s'enfermer dans le cadre contestataire habituel. Donc nous vous donnons rendez-vous ce mercredi à 20h au bar du Dôme. À bientôt. Alors bonjour à tous les auditeurs fidèles de là-bas si j'y suis. Vous connaissez tous Aguigui Mouna, Daniel
même à la clé, à Paris, dans le 5e arrondissement. De 19h à 24h, on projettera le film de Bernard Bessin, mais il y aura aussi beaucoup d'amis de Mouna et puis de la musique. Alors Daniel, le public serait aussi très heureux de t'accueillir si tu peux venir. À ce soir, donc, et Mouna Moutier à tous.
Salut Daniel, c'est Christophe. Tu pourrais quand même être solidaire avec Copenhague, là. Tu nous mets toujours ta grosse moto américaine avec son gros moteur qui fume. Hein. Tu pourrais quand même nous mettre de temps en temps la petite fanette avec le petit vélo. Hein. Il faudrait quand même un peu d'actualité. Donc voilà. Allez, ciao, continue bien. Salut.
À la source de tous les maux de notre société d'aujourd'hui, on trouve une crise morale qui s'aggrave. On en voit des traces partout. Les crimes d'intolérance provoqués par des haines raciales et ethniques qui sévissent partout. L'avidité de cadres de grandes entreprises qui extorquent des centaines de milliards de dollars. L'immoralité avec la pornographie sur le web, maintenant une industrie d'1 milliard de dollars par an. Plus de la moitié des mariages se finissent en divorce. Et au cours des 4 dernières décennies, les crimes violents ont augmenté de 500%. À la racine de cette crise se trouve une perte du sens moral et des valeurs. Mais pour aider à renverser ce déclin et à restaurer l'intégrité et la confiance, voici le chemin du bonheur. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base. J'y suis avec François Ruffin à la recherche de l'alinéa perdu. Une enquête de l'inspecteur.
Flight number 2, arriving from New York.
Président de la République, bonsoir.
Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le service de presse, s'il vous plaît?
Bien sûr, un instant, je vous prie.
Je vous remercie.
Présidence de la République.
Allô?
Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est concernant l'église de la Scientologie.
C'était pourquoi?
Mais en fait, en 2005, Monsieur Nicolas Sarkozy déclarait, enfin, savait pas trop, quand on lui demandait si c'était pour libéraliser le statut de la Scientologie, par exemple la sortie de la liste des sectes, il disait « je n'arrive pas à me faire une idée très précise ». C'était pour savoir si aujourd'hui, après le procès qui s'est déroulé la semaine dernière, il se faisait une idée plus précise.
Vous pouvez m'envoyer votre demande par mail?
Oui. Je vous remercie beaucoup, madame.
Je vous en prie.
Au revoir. De la lutte contre les sectes en France. Pour la première fois, l'église de Scientologie a été condamnée pour escroquerie en bande organisée par le tribunal correctionnel de Paris. Elle devra verser au total près de plus plus de 1 million d'euros d'amendes diverses. Et en outre, 4 responsables français de la Scientologie qui revendiquent, il faut le rappeler, 45 000 membres en France et 12 millions dans le monde, mais ça, ce sont les chiffres de la Scientologie, Quatre responsables français, donc, sont condamnés à des peines de prison avec sursis, échelonnées de 10 mois à 2 ans et assorties d'amendes de 5 000 à 30 000 euros. La peine la plus lourde frappe son principal dirigeant français, Alain Rosenberg, 60 ans, condamné à 2 ans de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Deux autres sont condamnés à 1000 et 2000 euros d'amende, etc., etc. Donc de très lourdes condamnations contre cette église de Scientologie. Mais, même s'il s'agit là du jugement le plus sévère jamais prononcé en France contre ce groupe à prétention religieuse, d'origine américaine, créé en 1954 par l'écrivain de science-fiction René Barr, dont on l'a évoqué hier, il y a quand même, pour ceux qui luttent contre les sectes en général en France et contre celles-ci tout particulièrement, comme un goût d'inachevé. Car en effet, la demande du parquet était la suppression pure et simple, la suspension de cette secte. Or, un alinéa a été perdu dans les codes de loi en bizarrement, curieusement, quelque temps avant. Auparavant, au cours de l'été, un alinéa a disparu. Alors évidemment, ça a donné lieu à des polémiques diverses et variées. Où est passé cet alinéa? Les uns ont dit, non, c'est une mauvaise communication, une erreur humaine, une erreur, enfin voilà, on s'excuse. Et puis d'autres soupçonnent très fortement, mais sans certitude, des infiltrations possibles de la Scientologie jusqu'au cœur même du pouvoir, et d'autres supputations courent encore. Alors, nous avons voulu en savoir plus. Voilà pourquoi, et entre autres pour éclairer notre président de la République qui se fait une idée assez floue de ce qu'est la Scientologie, nous avons envoyé notre meilleur limier, l'inspecteur Ruffin, à la recherche de la lignée perdue.
Aujourd'hui, moi j'ai fait le rêve d'une humanité. Wow! Plus humaine, sans haine et sans méchanceté. Solo. Une humanité moins pourrie, où seulement les gens gentils seraient accueillis. Une humanité plus pure, où les gens méchants auraient la vie dure. Parce que je sais pas vous, mais moi les gens qui sont méchants, ils me foutent les boules. D'ailleurs, rien qu'à leur sale tronche, ça se voit qu'ils sont pas cool. Un jour, je vais plus tolérer de les voir passer devant ma maison. Et s'ils veulent pas comprendre, j'ai des solutions. Et tous ceux qui pensent pas que j'ai raison, je les bute.
beaucoup au sérieux. Franchement, j'ai pas raison, non. Franchement, si c'est pour buter des méchants, ça va, on peut le faire, non, sans déconner, si c'est des méchants.
Ça ressemble à une loi sur mesure.
France Info, 14 septembre 2009.
10 jours avant le début du procès de la Scientologie, les parlementaires adoptent un texte visant à moderniser le droit. Noyé dans un flot de mesures très techniques, un article précise qu'une personne morale condamnée pour escroquerie ne risque plus la dissolution. Quelques semaines plus tard, à la fin du procès, c'est ce délit qui est retenu contre l'Église de Scientologie, et c'est cette sanction, la dissolution, qui est demandée par le parquet, sauf qu'à la lumière du nouveau texte, cette mesure est désormais impossible. Qui a commis la bourde de rédiger ce texte ou qui a voulu protéger la Scientologie? C'est le député UMP Jean-Luc Warsmann qui a été rapporteur de ce texte. Il se défend en indiquant qu'aucune remarque n'a été émise pendant son élaboration, ni au gouvernement, ni à l'Assemblée, ni au Sénat.
Je suis député ici depuis 21 ans et quelques mois même.
Et ça fait combien de temps que vous occupez des mouvements sectaires ?
Depuis 1995, depuis la première commission d'enquête où j'ai été envoyé par le groupe, par hasard.
Voilà, ça date pas d'hier, cette lutte contre les sectes, les procès, les poursuites diverses et variées. Là, au mois d'octobre, des peines lourdes et sans précédent ont été prononcées, mais une manipulation a sauvé la Scientologie, l'Église de Scientologie, et il y a un texte de loi au mois de juillet dernier qui a été discrètement modifié entre l'Assemblée nationale et le ministère de la Justice, une modification qui a évidemment bénéficié à l'Église de Scientologie. Monsieur Jean-Pierre Brard est député communiste depuis des années. Il lutte, c'est un de ses thèmes de mobilisation. Il est membre du conseil d'orientation de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUDE, et il nous apporte ses lumières. Au printemps, alors j'ai fait une petite chronologie pour pas m'y perdre. Le 25 mai, j'ouvrais un procès contre l'Église de Scientologie, notamment pour escroquerie. 13 jours avant, le 12 mai, était voté à l'Assemblée nationale un texte de simplification de la loi, mais dans lequel on supprimait un alinéa qui permettait de dissoudre une personne morale, c'est-à-dire une association ou une entreprise, pour escroquerie, justement. C'était 15 jours avant, pile poil le motif qui convenait. Pour vous, c'est le hasard, c'est une coïncidence?
Ce n'est pas le hasard. J'ai eu plusieurs raisons pour penser que ce n'est pas le hasard. C'est la relative sérénité des avocats de la Scientologie pendant le déroulement du procès. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai été moi-même auditionné par le tribunal, je me mettais bien préparé parce que je savais que la Scientologie avait 9 avocats. Je sais que je suis une des bêtes noires de la Scientologie. Et je m'attendais, évidemment, à être particulièrement agressé. Or, l'audience s'est très bien passée. La Scientologie m'a laissé tranquille. J'ai été étonné.
Vous voulez dire, ce jour-là, vous réclamez la mise à mort, finalement. En tout cas, éventuellement, une confiscation des fonds. Et là, bon, bah, ils acceptent de se faire flageller sans instinct de survie, presque.
Depuis, nous avons acquis la certitude que la scientologie a su immédiatement que la disposition avait été abrogée dans le texte.
Vous dites, le jour du procès, moi, député, j'étais pas au courant, le procureur n'était pas au courant, la Mivilude, dans la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, n'était pas au courant, et en revanche, l'avocat de l'église de la scientologie, lui, savait qu'il y avait cet article qui permettait de ne pas dissoudre une personne morale. Mais comment vous pouvez savoir qu'il savait ?
Nous avons un élément de preuve, c'est l'email daté du 8 juillet 2009 et qui est sans équivoque puisque l'avocat américain des scientologues, Monsieur Walsh, explique à un journaliste du Wall Street Journal qu'une modification du code pénal a rendu impossible la dissolution. Donc, la scientologie était au courant bien avant que nous, parlementaires, ici, ne le sachions. Mais là, la preuve est faite avec la déclaration de l'avocat de la scientologie aux États-Unis que la direction américaine, donc le centre, savait que le code pénal français avait été modifié avant que personne ne l'ait vu en France. Le crime est signé. Le crime est signé et par la maison mère.
Alors là, la modification, pour être très précis, c'était d'abord les peines prévues par l'article 131-39, et là ça devient les peines prévues de 2 à 9 de l'article 131-39.
C'est-à-dire qu'on remplace simplement dans la loi un 1 par un 2. Comment voulez-vous que dans un texte de plus de 140 articles, le député auquel on présente ce texte comme un texte fourre-tout soit attentif à la modification du 1 par un 2. C'est impossible. Mais ceux qui ont fait le coup, eux savaient.
Ici la présidence de l'Assemblée nationale. Nous vous prions de bien vouloir patienter.
Alors voilà ce que nous a dit Jean-Pierre Brard. Maintenant, une autre version, un autre son de cloche, celui de Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale.
Je vous passe tout de suite, monsieur Accoyer.
Merci beaucoup.
Allô ?
Oui, monsieur Accoyer ?
Oui, bonjour.
Bonsoir. Donc, je fais un reportage sur l'église de Scientologie qui aussi pointe ce qui s'est passé au printemps dernier, à savoir qu'au moment où le procureur requérait la dissolution de l'église de Scientologie, au moment où c'était espéré par les parties civiles, en fait, une loi était passée où il y avait un alinéa qui avait été supprimé. Ce qu'ignorait le procureur, ce qui est paru comme une étrangeté, pas qu'à mes yeux, ce qu'ignoraient les avocats des parties civiles, ce qu'ignoraient apparemment les députés, il n'y aurait eu que l'avocat de la scientologie qui aurait été au courant. Comment vous expliquez que, ben, dans le texte de loi finalement voté, qui est voté donc le 13 mai, c'est-à-dire 15 jours avant l'ouverture du procès de la scientologie, ça soit justement la peine qui concerne l'escroquerie en bande organisée, qui saute, quoi.
Alors, évidemment, lorsque j'ai appris par la presse que le droit avait été changé, j'ai fait diligenter une enquête. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu de nombreux allers-retours entre la commission des lois, ici à l'Assemblée, la chancellerie, et que, au cours de ces allers-retours, un des rappels a sauté. C'est une opération de copier-coller. J'ai eu en face de moi le service et l'administrateur qui, de lui-même, a reconnu qu'il y avait eu une erreur matérielle. Il n'y a pas, à mon avis, la moindre incursion, interférence extérieure qui soit intervenue.
Moi, excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre que ça soit une erreur matérielle, que ça soit un mauvais copier-coller, et qu'on ait mis un 2 là, à la place d'un 1, par hasard.
C'est tout à fait votre droit de vous interroger, ça, je ne peux pas vous en empêcher. Avec le milieu sectaire, il faut se méfier de tout.
Quelle a été la sanction qui a été prise à l'égard de ce collaborateur ?
Eh bien, j'ai remodelé. Nous pourrons faire examiner par le Conseil d'État les propositions de loi simplifiant le droit.
Mais là, je vous demande, à l'égard de ce collaborateur qui a commis une erreur...
Mais il a été lui-même extrêmement traumatisé, parce que ici, ce sont des fonctionnaires qui vouent leur vie à un travail qui est très complexe et très lourd, pas de sanctions précises qui puissent être prononcées sur ce qui a été une erreur que j'estime strictement involontaire.
J'ai du mal avec cette erreur matérielle.
Je le comprends bien et je le constate et je le comprends très bien.
Moi, j'ai confiance en vous, a priori, vu que vous êtes président de l'Assemblée nationale.
C'est pas une garantie, hein. Je vous le mets tout à fait à l'aise, hein. C'est pas une garantie. Moi, je connais bien mouvement sectaire. C'est pas parce que je suis président de l'Assemblée que je suis à l'abri des influences. Donc je voyais que je connais bien le truc. Hein.
Bon, a priori, j'ai confiance dans les Savoyards, on va dire.
Ah ça, alors par contre, c'est très important.
Par ailleurs, vous ne nous donnez pas tellement d'éléments, puisqu'on n'a pas le nom du collaborateur.
Ah ben non, attendez, ça, jamais, non, je couvre. Voilà, donc je vous ai tout dit, je n'ai rien de plus à vous dire.
Au revoir.
Merci, vive les Savoyards. Au revoir.
On se trouve à l'Assemblée nationale avec Roland Museau qui est député communiste. Alors moi, je comprends rien à ce qui se passe dans cette maison. Donc vous allez un peu me l'expliquer. Je veux dire, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à la mi-septembre à découvrir que le texte qui avait été voté, c'est pas tout à fait celui qui avait été voté. Donc comment ça a marché ? Vous savez, ça a été un long processus parce que ce texte, à l'origine, comprenait une cinquantaine d'articles. Il a été enrichi d'une cinquantaine d'autres et de 80 autres dans le cadre de la navette. Donc ce texte, qui était relativement ramassé, est devenu gigantesque au bout des navettes parlementaires. Donc vous, quand vous recevez ces 700 pages, vous vous dites « chouette, je vais passer un joyeux week-end à lire ce texte de loi sur la simplification du droit ». Il y a un résumé qui est extrêmement bien fait chapitre par chapitre et qui dit « bon, la modification sur tel aspect de la chose vise à rébarbatif ce sujet aujourd'hui ». Et c'est justement par ce rébarbatif qu'entre la manipulation. Parce que les textes de loi, les modifications, les alinéas, des pages entières, des dossiers hauts comme ça, ça nous casse les bonbons. Et c'est comme ça que ça se passe. On peut modifier de cette façon parce que c'est fatigant, parce que c'est rébarbatif. C'est par là que les choses se font. Et il faut être très très malin et suivre très attentivement l'enquête de l'inspecteur Ruffin, qui est donc avec Monsieur Museau. Alors là, dans le texte initial, c'était quelque chose du genre les peines prévues par l'article 131-39. Et ça revient par les peines prévues de 2 à 9 de l'article 131-39. Donc il a été ajouté de 2 à 9. C'est-à-dire on enlève la peine numéro 1. Et la peine numéro 1, c'était la dissolution.
Et c'est la démonstration et la simple lecture que vous venez de faire le prouve, c'est que il n'y a pas eu copier-coller. C'est une évidence. Parce que le président de l'Assemblée nationale, après avoir, dit-il, mené une enquête administrative, indique qu'il s'agit d'une erreur et d'un copier-coller. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'un copier-coller, c'est la reproduction de l'ancien. Donc il s'agit bien d'une modification, donc ce n'est pas un copier-coller, ce n'est pas une bourde, et ça ne peut être en aucune façon attribué à un lampiste de l'administration.
La thèse officielle, c'est le hasard, et ça a été mal recopié.
On nous dit que c'est un excellent administrateur qui s'est trompé. Ça n'a aucun sens.
Alors, j'ai fait une petite chronologie. Le 12 mai 2009, il y a le vote de la loi, la publication et son entrée en application immédiate. C'est normal pour une loi qu'elle entre en application immédiatement? Moi, je sais pas.
C'est ni normal ni anormal. Il y a des lois, vous savez, qui ont été votées il y a plusieurs années, qui sont toujours pas en application.
Parce que là, pour le procès de la scientologie se déroulait un mois plus tard, donc il fallait que ça se fasse rapidement, si jamais c'était délibéré.
Mais écoutez, vous remarquez vous-même par cette interrogation que la place au hasard n'existe pas.
Vous dites c'est quoi? C'est les mannes de Ron Hubbard qui sont venus rôder dans l'Assemblée nationale et qui ont tenu la plume de députés?
Je crois que, incontestablement, quelqu'un a eu l'idée. Et ce quelqu'un, il ne me paraît pas incongru de considérer que les sectes qui sont remarquablement bien organisées, la scientologie en particulier, aient un rôle de lobbyiste à l'égard de parlementaires. À partir du moment où je considère qu'il n'y a pas la place au hasard, il faut bien que quelque chose se soit produit.
Pour vous, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de coïncidence, il y a la main de la scientologie dans la suppression de cet alinéa.
Oui, celui qui a rédigé cela l'a fait parce qu'il y avait une instruction qui venait de quelque part, une instruction non écrite probablement, je suis pas naïf. Moi je conteste formellement que ce soit dû à une erreur. C'est impossible.
Alors là, vous voyez, on nous a mis une petite musique entre le complot et le polar, avec quelque chose d'un peu exotique, écoutez. Voilà. Eh ben, c'est pas un complot, c'est pas un polar non plus, et c'est pas exotique. Du tout, il s'agit bel et bien d'une manipulation. Mais alors, qui a manipulé? Au profit de qui? Ben ça, on a compris.
au profit de la scientologie, mais qui a manipulé? Alors, il y a bien sûr, ces sous-fifres, ces braves administrateurs à la commission des lois de l'Assemblée nationale qui se plantent dans les copier-coller, on peut toujours, et puis on les couvre, etc. Mais essayons d'aller plus loin et n'oublions surtout pas que sans évidemment tomber dans le complot, la théorie du complot, il existe des lobbies aux États-Unis. La scientologie qui prétend avoir 45 000 membres en France et 7 à 8 millions dans le monde, on a beaucoup effectivement aux États-Unis. Souvenez-vous, Tom Cruise, numéro 2, dit-on, de la scientologie, et d'autres grandes vedettes américaines, états-uniennes, sont dans cette église, sont les fleurons de cette église de scientologie. Et le lobby de la scientologie, eh bien comme les autres lobbies aux États-Unis, font pression sur le Congrès, sur les sénateurs. Et il y a des avions entre Washington et Paris, entre les élus américains et les nôtres. Rencontre avec Catherine Picard, ancienne députée socialiste et présidente de l'UNADFI, Union Nationale de Défense des Familles et de l'Individu. Là, on se trouve au siège de l'UNADFI, avec Catherine Picard, la présidente de l'UNADFI, l'Union Nationale pour la Défense des Familles et de l'Individu. Alors, vous êtes une ancienne députée ?
Absolument. J'étais rapporteur d'une loi qui a permis de mettre en avant que les mouvements sectaires pratiquaient largement ce qu'on appelle vulgairement la manipulation mentale, mais que dans le texte nous avons appelé la mise en état de suggestion par des méthodes psychologiques ou physiques. Les pressions de la scientologie, elles étaient surtout centrées sur l'ensemble de l'Assemblée nationale, puisque à grand renfort de mails, elle a réussi à bloquer toutes les boîtes de mes collègues députés qui n'en pouvaient plus de recevoir des messages. Il y a eu des rencontres, par exemple, avec 2-3 sénateurs la veille du passage de la loi au Sénat, et on l'a bien senti dans le discours de sénateurs où il y avait une tendance à soutenir le mouvement, sans pour autant y appartenir, hein, qu'on soit bien clair. Et au moment de la première commission d'enquête parlementaire en 1995 sur les sectes en France, là où est la fameuse liste des 173 mouvements sectaires, la scientologie était présente dans l'hémicycle. Elle avait même, Madame Gounod avait même une place dans la partie réservée aux députés. Donc, il y a toujours eu des événements avec la scientologie.
Madame Gounod, la porte-parole de l'Église de la scientologie en France.
Oui, oui.
Alors qu'ils étaient eux-mêmes classés dans les mouvements sectaires.
Ils étaient classés dans la liste d'un rapport qu'on était en train de rendre et ils étaient présents.
Mais tout le monde a le droit d'être présent à l'Assemblée nationale.
Mais pas forcément dans la tribune des réservés aux députés. Donc la notion de lobbying est très très importante, elle est faite à l'américaine. La difficulté pour les scientologues jusqu'à ce jour, c'est que la France n'est pas un pays où le lobbying s'exercerait de la même manière qu'aux États-Unis. Il y a très peu de lobbyistes au sein de l'Assemblée nationale, dans les locaux. On a l'impression que la Scientologie, recevant ses directives de sa maison mère aux États-Unis, joue avec des cartes qui ne sont pas tout à fait appropriées à la France.
L'Église de Scientologie, c'est aussi une affaire diplomatique, c'est aussi pour la France, pour l'Europe, une affaire de politique étrangère dans sa relation avec les États-Unis.
Oui, nous concevons que les Américains puissent avoir un droit différent issu d'une culture différente. Les Américains semblent avoir des difficultés à le concevoir puisque ils nous servent une série d'injonctions sur le sujet. Par exemple, deux sénateurs américains mandatés par le gouvernement américain sont venus au moment du passage. La loi était déjà votée en 2001, sont venus carrément dans mon bureau à l'Assemblée nationale me demander de retirer le texte de loi. Jamais, en sens inverse, un parlementaire français se permettrait une telle audace.
Et ils sont venus en vous disant quoi, alors?
En me disant que mon texte était liberticide, en me disant qu'il était inadmissible de pouvoir condamner un mouvement pour une liberté de conscience.
Là, ils sont venus en vous disant « c'est pas normal pour telle et telle religion, pour tel et tel mouvement » ou ils ont cité aucun mouvement particulier?
Un des deux sénateurs a cité la Scientologie et on sait très très bien que c'est la Scientologie qui fait le point de crispation aux affaires étrangères. Hein.
Canal Plus, 31 mai 2005.
Pour libéraliser le statut de la Scientologie, par exemple, de la sortir de la liste des sectes et en faire...
Elle arrive pas à faire une idée...
Nicolas Sarkozy.
Très précise. Parce que vous aurez envie de mettre à Daniel Gounard, je crois, pour dire, écoutez, on sait plus notre priorité, on va arrêter de... Écoutez, ma priorité, c'était les violeurs, les voyous, les braqueurs, les terroristes. Ils ont droit de vivre, l'Église de Scientologie. Non, je connais pas assez pour ça, mais... J'ai clairement voulu réorienter les renseignements généraux vers autre chose que le renseignement syndical, politique, tout ça.
Là, j'ai collectionné un certain nombre de citations. Donc c'est Nicolas Sarkozy d'abord où on lui demande « Vous êtes pour libéraliser le statut de la Scientologie, par exemple de la sortir de la liste des sectes ?» Il répond « Je n'arrive pas à me faire une idée très précise. »
Quand on a été ministre de l'Intérieur, qu'on a eu les informations des renseignements généraux, se dire qu'on n'a pas une idée bien précise de la Scientologie paraît un peu étonnant.
Dans son livre « La République, les religions, l'espérance », le même Nicolas Sarkozy se déclare « pour la reconnaissance des nouveaux mouvements spirituels ».
Les nouveaux mouvements religieux, les minorités de conviction et les nouveaux mouvements spirituels, c'est typiquement le langage sectaire. C'est le langage que les sectes emploient pour se décrire elles-mêmes.
Quand on est un ennemi des sectes, on appelle ça une secte.
Quand on est soi-même tolérant à l'égard des mouvements sectaires, on appelle ça nos minorités de conviction, nouveaux mouvements religieux ou nouveaux mouvements spirituels.
Donc là, le futur président de la République emploie en fait le vocabulaire des sectes elles-mêmes.
Absolument.
La Scientologie est une religion qui possède des méthodes pour vous aider à trouver des réponses aux questions de la vie, vos propres vérités sur la vie et sur vous. La Scientologie vous offre des méthodes à employer pour accroître vos aptitudes et atteindre votre plein potentiel dans la vie. Car le sujet de la scientologie, c'est vous.
Le risque évident lorsqu'on lutte contre une secte, c'est que la secte se fasse passer pour persécuter, pour martyriser, pour harceler. Ouais, tout le monde nous en veut. Et ça, c'est une très très vieille méthode, très très efficace. N'oublions pas que notre culture repose sur l'image du crucifié, l'image de la foi persécutée. Retour à l'église de Scientologie, la Sciento comme vous voudrez. Réponse de cette église face à ces épouvantables persécutions.
Pour en revenir à l'actualité, c'est-à-dire au procès de la semaine dernière, vous considérez quoi ? Que c'est une persécution judiciaire ? Comment vous regardez ça ? Ce qui se passe, c'est un phénomène franco-français, puisque aujourd'hui, des organismes comme la Miviludes sont regardés internationalement comme étant des organismes dangereux pour la liberté de religion dans le monde, que ce soit dans les rapports du rapporteur spécial de la liberté de religion de l'ONU, que ce soit dans les rapports, le dernier rapport du département d'État américain qui met à l'index la Miviludes, la France est très mal vue sur ce niveau-là, et pour cause, la scientologie existe dans tous les pays du monde, elle accumule les reconnaissances religieuses, ça se passe très bien partout où elle est, sauf en France, où il y a une volonté de s'en prendre à elle. Bon, bah, y a un moment où il va falloir que ça change. Il y avait eu un début de changement, on avait le sentiment, avec, bon, il y avait eu la réception médiatisée de Tom Cruise au ministère de l'économie, il y avait eu les déclarations de Nicolas Sarkozy qui se demandait si on n'allait pas sortir l'église de Scientologie de la liste des sectes. Dans son livre sur les religions et l'espérance, de la même manière quand il était candidat à la présidentielle, Nicolas Sarkozy se demandait s'il fallait pas ouvrir, enfin accepter de nouveaux mouvements spirituels. Comment vous avez lu ces signaux envoyés ?
Pour le livre de Sarkozy, ça fait toujours plaisir de voir que un futur président, le ministre de l'Intérieur, puisse concevoir qu'on est sommé une religion, tellement. Et au bureau des cultes, on disait aussi que, bon, patienter, continuer à vous développer sans problème, continuer. Il y avait, et c'était allé trop loin avec les listes noires, les listes de rapports parlementaires, les amalgames. Il y avait eu des pressions énormes des États-Unis à l'époque. C'est très mal vu, les listes. Très mal vu.
Donc ça devient une affaire diplomatique.
Ça devient, ça deviendrait facilement.
C'est,
si vous
c'est
voulez.
Une affaire de c'est... droit de l'homme international.
Oui. Il y avait même des menaces d'embargo. Enfin, il y avait eu, ça avait chauffé pas mal. Hein.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde ?
la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Presidency of the French Republic, please hold the line. We are trying to connect you.
Comme on a envoyé un mail, un deuxième mail, et qu'on a téléphoné, retéléphoné à l'Élysée et que ça répond pas, pour avoir le point de vue de Nicolas Sarkozy, on va téléphoner à son parti, au porte-parole de son parti, à l'Union pour un mouvement populaire.
Allô ?
Monsieur Payet ?
Oui.
Bonjour, c'est François Ruffin de France Inter, donc. Hein.
Très bien, allez-y.
Monsieur Payet, vous êtes porte-parole de l'UMP, le parti du président de la République. Que pense l'Union pour un mouvement populaire de l'Église de Scientologie ?
Écoutez, l'Église de Scientologie a fait l'objet de nombreuses enquêtes et de nombreux scandales. Elle a récemment encore été condamnée à 600 000 euros d'amende pour des faits qui sont des faits graves, puisque en fait, il s'agissait d'escroquerie en bande organisée et d'exercice illégal de la pharmacie. Et il convient donc d'être extrêmement prudent, pour ne pas dire méfiant, à l'égard de cette structure.
Alors, c'est une position qui a évolué, parce que quand Nicolas Sarkozy était interrogé pour savoir s'il fallait libéraliser le statut de la scientologie, par exemple sortir de la liste des sectes, il disait « je n'arrive pas à me faire une idée très précise ». Dans son livre sur la République, les religions, l'espérance, il s'affirme pour la reconnaissance des nouveaux mouvements spirituels, et on sait que à la fois lui... quand il était au ministère de l'économie, a reçu du Tom Cruise, l'ambassadeur de la scientologie, et également au moment où Jean-Claude Gaudin était numéro 2 de l'UMP, il l'a reçu et fait citoyen d'honneur de la ville de Marseille. Donc c'est une...
Oh, écoutez, Tom Cruise est aussi un très grand acteur, et à ce titre-là mérite très largement d'être citoyen d'honneur de la ville de Marseille. Simplement, l'objectif que partage le parti politique auquel j'appartiens, c'est de veiller à ce que tous les citoyens soient éclairés dans leurs choix, y compris dans leurs choix philosophiques.
Et concernant l'alinéa qui a été... Enfin, vous savez...
C'est très regrettable. C'est une erreur matérielle, non pas.
Alors quand Nicolas Sarkozy déclarait à propos de l'Église de Scientologie « je n'arrive pas à me faire une idée très précise s'il faut ou non la sortir de la liste des sectes », aujourd'hui,
je ne me prononce pas pour Nicolas Sarkozy. Pour ce qui nous concerne, à l'UMP, eh bien, encore une fois, nous avons un double engagement, transparence et vigilance.
Ah, on va continuer de rechercher l'alinéa perdu avec l'inspecteur Ruffin, mais je sais pas si on vous a parlé de Xenu. Xenu. Ah, mais Ron Hubbard, le créateur de la scientologie, a écrit lui-même qu'il y a 75 millions d'années, notre univers fut organisé en une confédération galactique de 76 planètes dirigée par le tout-puissant seigneur galactique Xenu. Xenu aurait fait expédier sur Terre par fusée
ressemblant à des DC-8, les 13,5 trillions d'habitants les auraient mis dans des volcans, auraient fait exploser d'énormes bombes H et auraient ensuite soudé ensemble ces âmes désincarnées qu'il appelle des tétans de corps. Tétans, T-H-E-T-A-N-S, de corps, voilà. Les humains ne seraient donc pas seuls dans leur corps, mais seraient composés d'eux-mêmes et de milliers de ces âmes parasites. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ces âmes parasites? Bien, en gros, ça vous coûte 200 000 euros pour apprendre à se débarrasser de ces tétans de corps. Voilà, c'est des informations qui sont peut-être précieuses pour notre président de la République qui n'arrive pas à se faire une idée bien précise de ce qu'est la scientologie. Alors, pour lutter contre ces sectes, ben, on disposait de certains services de police et c'est quelque chose qui marchait. Or, les flics anti-sectes, sont plus contents du tout parce qu'ils ont été un tout petit peu mis récemment à l'index. Alors là aussi, il n'y a pas de complot. Mais enfin, c'est quand même assez curieux. Il y a quand même des choses un petit peu curieuses. Voilà le point de vue d'Arnaud Palisson, ancien lieutenant des RG, déplacé par Claude Guéant et Nicolas Sarkozy à la demande de la scientologie, nous l'avons appelé à Montréal. Alors, on est à Montréal, là, avec Arnaud Palisson. Arnaud Palisson, vous êtes un ancien policier des renseignements généraux et vous avez travaillé au sein des renseignements généraux, particulièrement sur le dossier des dérives sectaires.
Absolument. J'ai commencé à travailler sur les sectes en 95, quand je suis arrivé à la direction des renseignements généraux de la préfecture de police. Puis, j'ai été muté à la direction centrale des renseignements généraux, au ministère de l'Intérieur, en 98. Et j'ai commencé dans la foulée une thèse doctorat sur la scientologie.
Et alors, quel travail vous avez effectué pendant ces années ?
Moi, j'étais analyste, officier de renseignement, analyste, et également, j'étais aussi un peu agent de renseignement, puisque j'allais quand même récupérer de l'information par une gestion des sources humaines.
Et pendant ces années, pendant les premières années de votre travail au sein des renseignements généraux, vous aviez le sentiment d'être soutenu politiquement ou...
Oui, je pense que effectivement, il y a eu quand même avec les premiers rapports parlementaires de 95, il y a eu quand même un électrochoc quelque part dans la communauté politique. Donc, il y a eu une certaine volonté d'agir sur le phénomène sectaire. Puis, c'est vrai qu'avec le changement de couleur du gouvernement, on a clairement viré Kazakh.
Vous pointez le changement de gouvernement qui est intervenu en 2002, c'est-à-dire au moment où Jacques Chirac est réélu comme président de la République, et c'est Nicolas Sarkozy qui est ministre de l'Intérieur.
Oui.
Il y a eu un changement d'ambiance vis-à-vis de la section des renseignements généraux qui se chargeait des dérives sectaires.
Il a fallu attendre encore un petit peu pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait vraiment une petite traîneuse là qui commençait à se mettre en place au niveau du gouvernement, au niveau
du... Donc là, vous dites neutre, c'est-à-dire on n'est plus ni pour ni contre les sectes.
Officiellement, on n'est ni pour ni contre. Mais officieusement, on s'aperçoit quand même qu'on tape plutôt sur ceux qui sont contre.
Et c'était qui alors ? Qui est-ce qui s'est fait taper dessus à ce moment-là ?
Moi je me suis un peu fait taper dessus avec la publication ma thèse et de mon livre.
Pourtant, votre thèse est une excellente note.
J'ai eu très favorable avec les félicitations du jury. Mais ça n'a pas eu l'heure de plaire à tout le monde au ministère de l'Intérieur.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là?
Ce qui s'est passé, c'est que le cabinet du ministre de l'Intérieur a reçu des appels d'avocats de la scientologie qui ont demandé à ce que j'enlève ma thèse d'Internet. J'ai publié ma thèse en intégralité sur Internet, ce qui n'a pas plu du tout à la scientologie, et qui l'a fait savoir au ministre.
Nicolas Sarkozy à l'époque.
Oui. Et on m'a demandé donc d'enlever ma thèse d'Internet sous peine d'être viré du groupe Culte et Secte.
Et donc vous avez enlevé votre thèse d'Internet?
J'ai enlevé ma thèse, j'ai laissé ma thèse sur Internet et donc j'ai été déplacé, j'ai été mis dans un groupe.
On vous a viré de la section lutte contre les dérives sectaires des renseignements généraux. Et pas parce qu'on trouvait que votre travail était mauvais.
Bah écoutez, si quelqu'un a trouvé que mon travail était mauvais d'un point de vue universitaire, il va falloir qu'ils expliquent ça au jury de soutenance de ma thèse, quoi. Parce que c'est eux, apparemment, c'est pas trop ce qu'ils en pensaient, hein. Je pense que si on veut m'attaquer, c'est pas sur la valeur universitaire du document. La personne qui a géré le dossier concernant mon édition du groupe Culte et Secte, c'était Monsieur Claude Guéant, qui était directeur du cabinet du ministre à l'époque, et qui lui a reçu des coups de téléphone des avocats de la scientologie qui demandaient ma tête, quoi.
Donc c'est le bras droit de Nicolas Sarkozy quand il était au ministère de l'Intérieur, Monsieur Claude Guéant, qui demande votre tête, et c'est lui encore qui est toujours le numéro 2 de l'Élysée, le bras droit de Nicolas Sarkozy à la présidence.
Oui, c'est lui.
Et on vous a pas caché que c'était les avocats de la scientologie qui avaient fait pression?
Non, on me l'a dit.
Canal Plus.
En 2002, la secte lance une campagne de déstabilisation contre Yves Bertrand, le patron des renseignements généraux, considéré comme hostile au mouvement.
31 mai 2005.
Du bout des lèvres, le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy au ministère raconte.
Claude Guéant.
L'église de Scientologie, à plusieurs reprises, a écrit au ministre pour se plaindre, et au premier ministre, aussi à ma connaissance, de l'excès de reproches qui lui était fait par les pouvoirs publics. Bon, ces prises de position, d'autres également, ont entraîné le gouvernement à recadrer un peu le dispositif en matière de surveillance des sectes, afin que celle-ci soit identifiée comme telle dès lors qu'elle présentait un réel danger pour les personnes. Ce n'était pas le cas de l'église de Scientologie. Ce qui ne semblait pas effectivement patent.
Finalement, vous avez été déplacé de votre poste aux renseignements généraux suite à des pressions directes des avocats de l'église de la Scientologie.
Oui.
Et à ce moment-là, votre ministère vous a pas protégé, au contraire, c'est lui qui a répercuté la pression.
Absolument.
Arnaud Palisson.
J'ai descendu directement du cabinet ministre. J'ai jamais été consulté. On m'a dit, vous enlevez votre thèse ou vous dégarpissez, ça vient du cabinet ministre, quoi.
Ça se produit à peu près à quel moment?
Ça se produit mars-avril 2003, à peu près.
Et quand vous voyez que, quelques mois plus tard, Tom Cruise est reçu au ministère de l'économie, que Nicolas Sarkozy, quand on lui demande s'il est pour libéraliser le statut de la scientologie, il dit « je n'arrive pas à me faire une idée très précise », que dans son livre sur la République, les religions et l'espérance, il se déclare pour la reconnaissance des nouveaux mouvements spirituels. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous...
Sarkozy, c'est l'Américain, c'est celui qui veut plaire, en tout cas, rien faire pour déplaire aux États-Unis. Et c'est vrai que les États-Unis ont une approche en matière de secte qui est quand même radicalement différente de celle de la France. Leur département d'État américain avait plusieurs années durant rendu des rapports dans lesquels pointait du doigt la France pour son climat de persécution religieuse, entre guillemets, à l'encontre des nouveaux mouvements religieux. Ça faisait partie des choses qui fâchaient. Et Nicolas Sarkozy, lui, a décidé de lever le pied sur ce sujet. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de secte et des nouveaux mouvements religieux.
Au printemps, s'est déroulé un nouveau procès concernant l'Église de Scientologie. Et 15 jours avant l'ouverture du procès, était votée une loi au Parlement où un alinéa était supprimé qui rendait impossible la dissolution d'une personne morale pour escroquerie, exactement le chef d'inculpation sous lequel on poursuivait la personne morale Église de Scientologie. Ça vous est apparu quoi, comme c'est simplement une coïncidence?
Moi, j'ai un peu du mal avec le concept de coïncidence dans ce domaine-là. J'ai un peu de mal aussi avec le fameux copier-coller malencontreux dont a parlé M. Accoyer. Disons que j'ai un peu de mal à avaler la pilule, mais quand je vois comment ça se passe au niveau de la chancellerie, que personne n'a averti le procureur dans le procès de Paris, là. Personne n'a averti que la loi avait changé, le plat qui fait son histoire en demandant la dissolution alors que la loi a changé depuis 2 semaines, ça, franchement, il y a un problème, quoi. Et quand même, c'est pas sérieux, quoi. On est là face à un gros procès de scientologie. La possibilité de la frapper en tant que personne morale et pas juste par des amendes, là, moi, j'ai un peu de mal, quoi.
Président de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter.
Bureau de Franck Lourier, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis François Ruffin de France Inter. J'avais rappelé, envoyé un mail pour savoir, avoir des informations sur Claude Guéant, Nicolas Sarkozy et la Scientologie.
Oui, ça fait, je vous ai eu en ligne.
Oui, et donc je voulais savoir, comme l'émission va être diffusée cet après-midi, je voulais savoir s'il y avait une réponse, quoi.
Moi, un instant.
Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter.
Oui, allô?
Oui.
Oui, écoutez, j'ai pas eu de réponse. Le papier est toujours sur son bureau.
Le vendredi dernier, je vous demandais combien de personnes travaillaient à la communication de l'Élysée si vous étiez en sous-effectif. Hier est paru un papier dans le Parisien où on dit qu'il y a 51 personnes qui travaillent à la communication de l'Élysée, que ça revient à 7,5 millions d'euros chaque année. Et c'est vrai que moi, je me dis, mince, comment ça se fait que pendant un mois, j'ai pas de réponse alors qu'il y a 51 personnes en face, vous voyez? Vous savez, moi, mon sentiment, c'est que le service communication, des fois, c'est pour empêcher la communication, vous voyez?
Écoutez, je suis vraiment désolé. Voilà.
C'est tout pour la communication?
Je leur parle dès que je le vois.
Au revoir, bon courage, au revoir.
de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Presidency of the French Republic, please hold the line we are trying to connect you. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Presidency of the French Republic, please hold the line we are trying to connect you.
Merci à toutes et à tous. C'était une enquête de l'inspecteur François Ruffin. Merci à Roland Museau, Jean-Pierre Brard, Bernard Accoyer et Dominique Payet, ainsi qu'Arnaud Palisson, Georges Fenet, Catherine Picard, Éric Roux, Daniel Gounor, à lire le livre du repenti Alain Stephen, Voyage au cœur de la scientologie et la technique aujourd'hui. Fabrice Desmaz, Julien Dumont, Coyen Guyenne et Raphaël Mouterde ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Le répondeur de la base J'y suis, c'est votre répondeur. Vendredi, nous partons pour l'Inde, nous partons pour le Kerala, à partir de lundi, pour 3 ou 4 jours, et puis à partir du 11 janvier, deuxième partie de cette suite de reportages en Inde. Cette fois-ci, nous irons dans l'état du Chhattisgarh à la rencontre de la guérilla Naxalite. Réclame.
France Inter, partenaire de Ciné Nordica, du 16 au 20 décembre au cinéma du Panthéon à Paris. Du cinéma suédois, norvégien et danois, des rencontres, de la musique live. 5 jours pour découvrir ou redécouvrir le cinéma scandinave à Paris. Retrouvez Ciné Nordica dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
16h pile poil sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis, les infos, Dominique Delaroy. Salut! Bonjour, le Sénat confirme que le projet de loi sur le redécoupage électoral a bien été rejeté hier soir à la suite d'une erreur de vote du groupe centriste. Le gouvernement souhaitait dans la matinée obtenir au plus vite un nouveau vote de la Haute Assemblée. Ce ne sera pas possible. L'affaire est close aujourd'hui au Sénat. Le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans des affaires internes au Sénat, a déclaré le ministre des Relations avec le Parlement, Henri de Rincourt, lui-même ancien sénateur. Le texte doit donc désormais être réexaminé à l'Assemblée nationale. François Fillon a justifié, lors d'une réunion à huis clos avec les députés UMP, l'expulsion prochaine d'une dizaine de réfugiés afghans. Le Premier ministre a rappelé notamment l'engagement auprès des Britanniques de ne pas laisser Sangatte se reconstruire. Un peu plus tôt, Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, avait confirmé ces expulsions dans les jours qui viennent. Ça pourrait même être ce soir par un avion venant de Londres et faisant escale à Roissy entre 21h et 22h. Une dizaine de manifestants opposés à la réforme de la poste, dont Olivier Besancenot, ont réussi à escalader les grilles de l'Assemblée nationale. Il s'agissait de militants du syndicat Sud PTT et du NPA, conduits par son porte-parole, qui est également facteur. Ils ont été interpellés par les forces de l'ordre avant d'être évacués. L'examen du projet de loi sur la poste doit commencer dans l'après-midi. L'opposition accuse le gouvernement de vouloir privatiser l'entreprise publique. Brice Hortefeux est attendu dans une heure à Lyon, une visite du ministre de l'Intérieur en rapport avec la fusillade de dimanche au cours de laquelle un garçon de 12 ans a été tué et un ado de 17 ans blessé. Quatre jeunes gens soupçonnés d'être impliqués dans les rixes précédant la fusillade sont en garde à vue, mais selon la police, le tireur ne serait pas parmi eux. Gérard Collomb, le sénateur-maire de la ville, a rencontré aujourd'hui les parents de l'enfant tué. Il espère que justice se fasse et qu'un tel drame ne puisse plus se reproduire. La baisse se poursuit. Le nombre d'établissements scolaires fermés en raison de la grippe AH1N1 s'élève à 74 aujourd'hui, dont 73 écoles. Hier, il y en avait 91. La région de Pérouse, dans le centre de l'Italie, a été secouée par un séisme en début d'après-midi. Un séisme de magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter. La secousse a été nettement ressentie dans la zone, mais aucun dégât ni victime n'est à déplorer pour le moment. Les handballeuses françaises affronteront l'Espagne en demi-finale du championnat du monde à Nankin en Chine. Les Bleues, victorieuses de l'Autriche 35-20 à la mi-journée, terminent en tête du groupe 1 devant la Russie. Et puis Julien Dupuis, qu'on reparaîtra jeudi à Dublin devant la commission de discipline de la Coupe d'Europe. Le demi de mêlée du Stade français doit répondre d'une accusation de fourchette selon des images prises lors de la défaite de son équipe en Ulster samedi. Julien Dupuis porte deux fois la main vers les yeux du troisième ligne irlandais qui a dû être soigné. S'il est reconnu coupable, Julien Dupuis risque 12 semaines à 3 ans de suspension.
Service public, Isabelle Giordano.
Demain, mercredi, dans Service public, une question. Pourquoi manque-t-on toujours de HLM en France ? Une pétition circule en ce moment et relaie le cri d'alarme des architectes et des urbanistes. Quelles sont les solutions concrètes pour pallier ce manque de logement social ? On en débat tous ensemble avec vos questions et vos réactions sur franceinter.com.
Service public, pour mieux décrypter tous les pièges de la conso, du lundi au vendredi, à 10h.
France Inter présente Cécilia Bartoli, Sacrificium, un voyage hors du commun dans l'univers des castrats.
Retrouvez Cécilia Bartoli et les plus beaux airs pour Castra dans les émissions et le programme musical de France Inter.
Sacrificium, Cécilia Bartoli avec France Inter.
France Inter.
La différence.
Il est 16h04, place au carrefour de l'Odéon. Avec vous, Frédéric, bonjour.
Bonjour Dominique.
Carrefour de l'Odéon.
Thank you.
Bonjour à tous, Johannes Brahms pour commencer. Lui qui disait qu'il n'y avait pas de compositeur français, ben c'est un quatuor qui s'appelle Fauré qui va l'interpréter. Donc ça prouve que ses bisbilles se sont éteintes avec le temps. Et nous allons entendre le scherzo du troisième quatuor avec piano de Brahms. C'est une courte épopée, mais plutôt puissante.
plutôt musclé, ce scherzo du troisième quatuor avec piano de Johannes Brahms, interprété par le Forêt Quartet, le quatuor Forêt en français. Et ce bel ensemble allemand va jouer à Paris, c'est jeudi, donc après-demain, à 20h, au Goethe Institut, l'Institut Goethe. C'est 17 avenue d'Iéna, dans le 16e, et c'est entrée libre, bonne nouvelle.